Vous êtes avec SBS French. Les grands titres de ce 7 novembre, un effort national massif. Plus de 80% des Australiens ont été vaccinés à double dose, alors que le Victoria dévoile des incitations économiques pour redonner vie à la ville de Melbourne. Près de 100 morts après l'explosion d'un pétrolier en Sierra Leone et une femme entièrement vaccinée en Nouvelle-Galles du Sud est devenue instantanément millionnaire après avoir remporté la campagne Million Dollar Vax. Le Premier ministre australien Scott Morrison est ravi de la nouvelle que l'Australie a franchi une étape importante hier avec 80% de la population de plus de 16 ans complètement vaccinée contre le COVID-19.
Another magnificent milestone, Australia. 80% of Australians aged over 16 have now been fully vaccinated. That's 4 out of every 5. How good is that? There's now been 36 million doses. This has been a true Australian national effort, and we all need to take this path back to normal life together.
L'ACT a le taux le plus élevé, avec 94% de la population âgée de 12 ans et plus entièrement vaccinée, tandis que l'Australie occidentale a le plus bas. Le Victoria a enregistré 1173 nouveaux cas de COVID-19 et 9 décès ce dimanche. Pendant ce temps, l'inquiétude persiste quant au nombre de nouveaux cas de COVID-19 détectés dans les régions rurales de la Nouvelle-Galles du Sud. L'État a enregistré 244 nouveaux cas locaux ce dimanche et un seul décès. Les derniers chiffres surviennent alors que les organisateurs de manifestations contre les vaccinations et les lois sur les pandémies proposées dans le Victoria se sont engagés à retourner dans les rues de Melbourne chaque semaine jusqu'à ce que leurs demandes soient faites. Des manifestations ont également eu lieu à Sydney. Le ministre de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazard, se dit frustré.
My message to people who want to get out and demonstrate is it is quite dangerous to get out there and to demonstrate when we know that this virus is extremely capable of transmitting and you may end up being the victim. It's a pretty selfish position, I have to say, if you're not getting vaccinated, unless you have a medical justification for not being vaccinated.
Un financement de 44 millions de dollars a été dévoilé pour revitaliser le centre-ville de Melbourne alors que les travailleurs et les visiteurs reviennent en ville après le 6e lockdown. Ce financement proposera un certain nombre d'initiatives pour redonner vie au centre-ville, notamment un programme de remise de 5 millions de dollars sur les repas en milieu de semaine. À partir du 15 novembre prochain, les gens pourront réclamer 30% de réduction sur leurs factures jusqu'à 150 dollars entre le lundi et le jeudi de chaque semaine. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, a déclaré qu'il s'agissait de ramener les gens et les visiteurs au sein de la ville.
This is one of the great cities of the world. It's certainly the most vibrant, the most dynamic, the best city in our nation by a long, long way. But there's been damage done. There are wounds that need to be healed. There have been changes and we need to try and embrace some of those, but also get back to normal, get back to that vibrant food, wine, coffee, culture.
Une femme entièrement vaccinée en Nouvelle-Galles du Sud est devenue instantanément millionnaire après avoir remporté la campagne Million Dollar Vax. Joanne Zhu a été annoncée gagnante du Grand Prix de 1 million de dollars juste pour avoir reçu ses vaccins COVID-19. Elle faisait partie des près de 2,7 millions d'Australiens qui se sont inscrits pour tenter de gagner. Madame Zhu déclare qu'elle ne peut pas le croire.
Someone called me and I just picked up the call and they said I won $1 million. And I was saying like, oh, what is that? Are you like calling the wrong person? And I said, oh, your name is blah, blah, blah. And I said, yes, I am. And she said, I'm the only one in Australia.
Et Madame Zhu veut inviter sa famille de Chine, de les faire voyager en première classe, de les loger dans un hôtel 5 étoiles pour le nouvel an chinois, si les frontières sont ouvertes. Le député libéral du Victoria, Tim Smith, ne participera pas aux prochaines élections après avoir écrasé sa voiture alors qu'il était ivre le week-end dernier. Âgé de 38 ans, il a eu un alcotest indiquant près de 3 fois la limite légale après une collision avec une autre voiture et s'écrasant contre une maison à Hawthorne la nuit du 30 octobre, évitant de justesse une chambre d'un enfant. Son permis a été immédiatement suspendu et il a été condamné à une amende de $750. Dans un courriel, le député de Kew a déclaré qu'il avait été profondément touché par les encouragements qu'il avait reçus des partisans et des membres du Parti libéral. Une recherche se poursuit pour un homme de 57 ans porté disparu sur une plage d'Australie-Occidentale où l'on craint qu'il ait été attaqué par plusieurs requins. La police a déclaré que l'incident s'est produit hier vers 10h, heure locale, à Port Beach, North Fremantle. Deux adolescents sur un bateau ont vu ce qu'ils croyaient être une attaque de requin et ont appelé les services d'urgence. L'inspecteur par intérim, Troy Douglas, a déclaré que la recherche de l'homme disparu continuait ce dimanche.
Our boys were in a dinghy nearby. They witnessed the attack and as a result of that have advised emergency services pretty much straight away and then have provided police with information in relation to what they saw and heard have been really, really helpful.
Des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Glasgow pour une deuxième journée pour demander aux dirigeants mondiaux qu'ils agissent plus rapidement pour réduire les combustibles fossiles et lutter contre le changement climatique. Peu de mobilisation à Paris hier. Reportage Pierre Olivier pour Radio France Internationale.
Devant l'hôtel de ville ce samedi, le soleil est au rendez-vous, les défenseurs de la planète un peu moins.
Je suis très déçu par le peu de mobilisation ici, étant donné l'urgence de la question. Moi-même qui étais motivé, j'ai eu besoin de faire pas mal de recherches pour voir qu'il y avait ça qui se passait. Parmi les gens que je connais, je suis la seule personne qui était au courant.
À peine une petite moitié du parvis est occupée. Dans l'assistance, beaucoup de trentenaires avec des enfants. C'est pour sa fille qu'Élodie s'est déplacée.
C'est elle qui va subir les conséquences des problèmes qu'on lui lègue.
Elle a quel âge ?
Elle a 15 mois. J'espère que sa génération trouvera les solutions aux problèmes qu'on lui lègue. Mais bon, je ne peux pas rester les bras croisés. J'espère au moins lui transmettre cet esprit de résilience, de combativité.
Et c'est justement sur les solutions que certains préfèrent insister, comme le député européen socialiste Pierre Larouturou.
La bonne nouvelle, c'est que si c'est nous qui sommes responsables du dérèglement climatique à cause du CO2, il n'y a pas de fatalité. C'est pas comme la fin des dinosaures. La fin des dinosaures, c'est un astéroïde énorme qui arrive, les pauvres dinosaures, ils n'y pouvaient rien. Tandis que là, la bonne nouvelle, c'est que nous, on peut agir. Si on diminue très fortement notre production de CO2 ou de méthane, on peut encore éviter une catastrophe.
Éviter une catastrophe, oui, mais à condition aussi que les dirigeants prennent le problème à bras-le-corps. Une demande maintes et maintes fois répétée lors de ce rassemblement.
Et qu'est-ce qu'on veut ? On a un bon corps ? Et qu'est-ce qu'on veut ?
Et en Australie, peu de gens ont manifesté également, comme à Sydney, quelques 1000 personnes. Reportage Grégory Pless pour RFI.
Une action résolue pour lutter contre le changement climatique, c'est ce que réclament les manifestants qui ont défilé aujourd'hui dans le centre de Sydney. À l'image de cette dame qui s'est déguisée pour l'occasion en morceaux de charbon, elle souhaitait avec ce costume dénoncer le soutien indéfectible du Premier ministre australien à cette énergie fossile.
Tout ce qu'ils disent ou font est frauduleux. Ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Ils écrivent des slogans, mais ils n'ont pas de vraies solutions.
Il faut dire que lors de sa brève apparition à la COP26, Scott Morrison a refusé de signer deux des principaux engagements pris à Glasgow, la réduction des émissions de méthane et la sortie programmée du charbon.
C'est assez typique de notre gouvernement. Ils sont dans la poche du lobby du gaz et du charbon. Ils ne vont pas œuvrer contre leurs propres intérêts financiers.
L'Australie est le premier exportateur mondial de charbon, mais aussi le pays qui, par habitant, émet le plus de gaz à effet de serre parmi les nations du G20. Par ailleurs, le plan pour la neutralité carbone, présenté par Scott Morrison juste avant de partir à Glasgow, ne prévoit pas d'arrêter l'exploitation du charbon.
Marco Lambertini, le président de la World Life Foundation, a appelé à fixer des objectifs positifs nets sur la diversité biologique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. S'exprimant en marge de la COP26, M. Lambertini a déclaré que la nature a besoin d'être reconnue pour son rôle dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.
We need to see the biodiversity agenda to actually raise clear ambition on nature as we have on climate. On climate, we have a net zero emissions target by 2050. Super clear, measurable, that aligns everybody, government, consumers, investors, businesses, to contribute to that. We need a similar, clear global goal for nature endorsed next year in April.
Près de 100 morts et plus de 100 blessés dans la capitale de la Sierra Leone lorsqu'un camion-citerne a explosé à la suite d'une collision. Les victimes comprenaient des personnes qui s'étaient rassemblées pour récupérer le carburant qui s'échappait du véhicule. Des images largement partagées en ligne montrent plusieurs victimes grièvement brûlées, gisant dans les rues alors que le feu ravageait les magasins et les maisons à proximité. Écoutez Mohamed Lamnaraba, qui est directeur de communication de l'Agence nationale chargée de la gestion des catastrophes dans le pays.
Nous avons établi un centre de commandement d'urgence sur les lieux du drame. Il sera ouvert 24 heures sur 24 et nos effectifs travailleront en rotation. Il y aura également des travailleurs sociaux présents pour fournir un soutien psychologique aux familles. Nous avons publié un communiqué de presse appelant toute personne ayant perdu un fils, un oncle, un père ou autre proche à contacter l'agence de gestion des catastrophes afin que nous puissions retrouver les membres de leur famille. Certaines des victimes ont été brûlées au-delà de toute identification. À dire vrai, nous avons du mal à identifier leur famille. Personne ne pourra les identifier. Mourir d'une telle manière et être brûlé à un tel degré, c'est très lourd pour notre pays. Tout le monde est en deuil. Le vice-président n'a pas pu retenir ses larmes alors qu'il s'adressait à une foule très nombreuse à la périphérie de la ville.
Au moins 8 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées. Alors, lors d'un festival Astroworld à Houston, au Texas, le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña, a déclaré que la compression de la foule vers la scène s'était produite pendant que le rappeur Travis Scott se produisait. Le spectacle a été annulé peu de temps après que plusieurs personnes ont commencé à souffrir de leurs blessures. Lubna Anaki, RFI.
Tout s'est joué en quelques minutes seulement lors du festival Astroworld qui réunissait près de 50 000 personnes. À 21h, heure locale, alors que le rappeur américain Travis Scott était sur scène, la foule a commencé à se presser vers la scène, provoquant un mouvement de panique. Les témoins décrivent des scènes de chaos, des spectateurs qui tombent, perdent conscience, des spectateurs piétinés. Au total, 8 personnes sont mortes et au moins 23 personnes sont dans un état grave à l'hôpital après avoir été victimes d'arrêt cardiaque. La police de Houston ignore encore ce qui a provoqué le mouvement de foule, mais explique que les équipes de sécurité et de secours présentes au festival ont été très vite débordées par la bousculade. Les autorités disent étudier notamment toutes les vidéos prises lors de l'événement pour comprendre ce qui s'est passé. De leur côté, les organisateurs du festival ont annoncé l'annulation de tous les concerts prévus ce week-end. Était attendu entre autres le chanteur Drake ou encore Earth, Wind & Fire.
11 patients sont décédés après qu'un incendie s'est déclaré dans le service COVID-19 d'un hôpital de l'état du Maharashtra dans l'ouest de l'Inde. L'incendie a été maîtrisé et survient après qu'un incident similaire en mai dernier a tué au moins 18 patients. Les tensions entre la France et l'Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a donné une interview à Der Spiegel, l'hebdomadaire allemand, et il a parlé notamment des relations tendues entre les deux pays. Explication de Charlotte Cossé pour RFI.
On ne touche pas à l'histoire d'un peuple et on n'insulte pas les Algériens, affirme le président Tebboune dans l'hebdomadaire allemand. Le président français a porté atteinte à la dignité des Algériens, poursuit-il. Avec cette déclaration, Macron s'est placé du côté de ceux qui justifient la colonisation, assène-t-il. Abdelmadjid Tebboune, interrogé sur le pourquoi des propos d'Emmanuel Macron, estime qu'il s'agit de visées électoralistes. C'est le même discours que le journaliste d'extrême droite Éric Zemmour utilise depuis longtemps, dénonce-t-il. Le président algérien déclare « Nous ne sommes plus obligés de coopérer les uns avec les autres ». Début octobre, Abdelmadjid Tebboune avait rappelé son ambassadeur à Paris. Il avait également interdit le survol de son territoire aux avions militaires français qui circulent au-dessus de l'Algérie pour rejoindre la bande sahélienne et les opérations Barkhane. Ils devront juste faire 9 heures de vol au lieu de 4, souligne-t-il. Sur la question de la sécurité au Mali, si les Maliens sont confrontés à une attaque, le président Tebboune se dit prêt à intervenir, seulement si Bamako demande de l'aide, mais il prévient, pas question d'envoyer ses soldats pour les intérêts des autres.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 20. Melbourne, 17. Hobart, 16. Canberra, 24. Sydney, 28. Brisbane, 28 également. Cairns, 32. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximale de 27 degrés. Un rappel des grands titres de ce 7 novembre, un effort national massif. Plus de 80% des Australiens ont été vaccinés à double dose, alors que le Victoria dévoile des incitations économiques pour redonner vie à la ville de Melbourne. Et une femme entièrement vaccinée en Nouvelle-Galles du Sud est devenue instantanément millionnaire après avoir remporté la campagne Million Dollar Vax. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le tennis à Paris-Bercy. Eh bien, la finale aura lieu ce dimanche entre le Serbe Novak Djokovic et Daniil Medvedev, le Russe. Les précisions de Eric Mamrut pour RFI.
Oui, c'est la finale idéale entre le numéro 1 mondial et son dauphin. On a fait ne pas l'avoir, cette affiche de rêve, puisque Novak Djokovic a souffert mille maux pour se défaire tout à l'heure du Polonais Hubert Hurkacz, 8e mondial. Le score 3-6, 6-0, 7-6 pour Novak Djokovic, qui atteint ainsi la 7e finale parisienne ici à Bercy de sa carrière. Il en a remporté 5. Daniil Medvedev, lui, s'est baladé 6-2, 6-2 face au numéro 4 mondial Alexander Zverev. Il est en forme. Il partira favori demain pour faire comme à l'US Open, donc il y a 2 mois, battre Novak Djokovic. Mais le Serbe peut déjà se consoler puisqu'il a assuré sa place de numéro 1 mondial à la fin de l'année. Ceci pour la 7e année. C'est un nouveau record. Il dépasse maintenant l'Américain Pete Sampras.
Et puis le beau parcours du Français Hugo Gaston, qui a pris fin d'ailleurs vendredi face à Medvedev, le Russe, en quart de finale. Son parcours donc avec Eric Mamrut pour RFI.
Il est ressorti de sa boîte, le diablotin toulousain. Sa patte gauche magique a de nouveau rendu fou ses adversaires. Comme à Roland-Garros l'an dernier, lorsque Stan Wawrinka avait dû s'incliner et que Dominic Thiem l'avait emporté de justesse. Cette fois à Bercy, ce sont 5 joueurs mieux classés qu'Hugo Gaston qui ont succombé, écœurés par la cuisine indigeste du diablotin. Anderson et Musetti en qualification, puis Rinderknecht, Karen Obusta, 17e mondial, et Carlos Alcaraz, le jeune diamant espagnol. Seul Daniil Medvedev, le russe tenant du titre, a su se sortir du guépier en quart de finale, non sans avoir sauvé 3 balles de première manche. Mais qu'importe, Hugo Gaston a fait vibrer le public parisien cette semaine tout en affichant ses progrès. Forcément de quoi être satisfait. Hugo Gaston.
Il y a quand même beaucoup de fierté derrière tout ça. Je trouve que j'ai très bien géré les moments clés de chaque match. Bon, malgré aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie du jeu. Globalement, je suis très content de ce que j'ai fait, puis aussi de mon état physique, parce que j'ai joué beaucoup de matchs longs et j'ai toujours répondu présent. Donc voilà, c'est un très bon point. Le public qui m'a poussé, c'était incroyable sur le terrain, d'entendre son nom comme ça. C'est aussi dans une atmosphère comme ça que j'aime jouer. C'est aussi pour ça que je joue au tennis.
Le public bluffé par le culot et surtout le talent si particulier d'Hugo Gaston. Bluffé par cet ovni d'1m73 à la main d'or, capable de faire les coups les plus déroutants pour ses adversaires qui se mettent alors à déjouer. Même Daniil Medvedev a été impressionné.
Très bon match de sa part. Il peut frapper fort. Il a fait quelques winners sur des moments importants. Ça, c'est une force. Il peut faire des bons amortis, ça tout le monde le sache, mais c'est pas facile de courir toujours en avance. Surtout ce qui est pas facile, qu'il est capable de faire tourner la balle et de jouer fort, et il est capable de faire l'amorti en même temps sur la même balle. Donc c'est là où c'est difficile parce que tu sais toujours pas ce qu'il va faire, donc pour les jambes c'est pas facile. Il retourne bien et surtout encore une fois on revient vers les balles ici qui sont très lentes, bah, ça lui plaît, comme ça il a du temps sur beaucoup de frappes, du temps pour défendre. C'est pour ça aussi qu'il a pu faire ce parcours-là ici. Ouais, il joue bien. Bah, il faut continuer ça, je ne vais pas dire 30 semaines dans l'année, mais je ne sais pas, 5-10 semaines dans l'année, ça peut être assez pour monter en classement, et bah, c'est ça le plus important.
Être régulier, voilà en effet le prochain défi d'Hugo Gaston, qui grâce à sa folle semaine, va passer de la 103e à la 67e place mondiale. Le Toulousain va ainsi pouvoir se frotter plus régulièrement, meilleur dans les grands tournois et continuer sa progression. À son rythme, lui qui était 239e au classement l'an dernier avant son épopée à Roland-Garros. Alors que les Tsonga, Gasquet et Simon sont sur le déclin, que Luc Capouille a plongé après son opération au coude et que le jeune Hugo Humbert alterne le meilleur et le pire, le tennis français tient donc peut-être une nouvelle étoile.
Le russe Medvedev est francophone également. Que pense-t-il de Paris ? Reportage Eric Mamrut pour RFI.
I love Paris in the springtime.
Il fait bon être francophone cette année à Bercy. Daniil Medvedev put ressentir l'amour du public parisien à son égard. C'était au printemps dernier à Roland-Garros. Le russe numéro 2 mondial, basé depuis plusieurs années dans le sud de la France.
J'aime bien jouer en France, surtout après Roland-Garros, c'était vraiment marrant. Et je me souviens très bien que les gens étaient pour moi, c'était vraiment sympa et même j'ai envie de dire un peu inhabituel. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de public. Bien sûr, j'espère que pour moi, je vais essayer de jouer avec eux. Je pense que je le fais bien, donc ça me fait plaisir de revenir ici quand même.
Daniil Medvedev, vainqueur à Bercy l'an passé, mais dans le silence du huis clos, sûr qu'il aimerait bien remettre sa dimanche en finale sous les vivas du public de Paris. Because my love, she's there, she's everywhere, but she's really here.
La Billie Jean Cup, on parle de la Fed Cup, comme on l'appelait autrefois, c'est à Prague et la finale a été gagnée par la Russie contre la Suisse hier. On passe au foot, la Ligue 1 en France, deux matchs, Angers et Lille ont fait match nul, un but partout, le Paris Saint-Germain s'est imposé contre Bordeaux, 3-2. En Angleterre, le derby Manchester City-Manchester United remporté donc par les Citizens, comme nous l'explique Philippe Auclair sur place pour RFI.
Capable de jouer devant son public. Alors au niveau du classement, ça n'est pas catastrophique, hein, puisqu'ils ont 17 points, donc ils sont encore à la 5e place, même si ça pourrait se faire dépasser par Arsenal par exemple demain. Mais c'est surtout la manière ou l'absence de manière, le fait que cette équipe n'a aucune énergie, n'a aucun style, n'a aucun fond de jeu, et au point que ça a poussé certains supporters de Manchester à dire qu'en fait le pire résultat n'était pas la défaite 5-0 contre Liverpool ou la défaite 4-2 contre Leicester, voire même cette défaite 2-0 qui aurait pu être beaucoup plus large si les joueurs de Manchester City avaient saisi leurs occasions, mais la victoire 3-0 contre Tottenham, parce que cette victoire avait permis à Ole Gunnar Solskjaer de rester en place et avait ensuite mené à la nomination d'Antonio Conte comme entraîneur de Tottenham. Ça veut dire que les choses vont très très mal. Et quand on sait qu'il y a une trêve internationale qui arrive, un moment toujours périlleux pour les entraîneurs de grands clubs qui vont mal, on peut se poser des questions sur l'avenir du Norvégien maintenant vraiment sérieusement cette fois-ci, tant ce qu'a proposé Manchester United devant son public, qui a hué son équipe, ce qui est rare ici, mais Old Trafford a été pitoyable. Il n'y a pas d'autre mot pour cela. Les choses doivent changer très très rapidement à Manchester United. Et on voit difficilement que pourrait changer autrement qu'en ayant un nouvel entraîneur qui prenne la place du Norvégien, qui semble perdu quand, lui-même quand on lui pose les questions, savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Il semble comme les Anglais diraient, un lapin effarouché par les phares d'une voiture. Et plus ça va, plus la situation empire à Old Trafford. Donc, il est possible, voire probable, que Ole Gunnar Solskjaer vive ces dernières semaines comme entraîneur de Manchester United.
Chelsea et Burnley ont fait match nul, un but partout. En Espagne, le Real de Madrid s'est imposé contre Rayo Vallecano 2-1. Le FC Barcelone et Celta Vigo ont fait match nul, 3-2. En Allemagne, victoire du Bayern de Munich contre Fribourg, 2-1. Le Borussia Dortmund s'est incliné face à Leipzig, 2-1. En Italie, victoire de l'Atalanta Bergame contre Cagliari, 2-1. Et la Juve de Turin s'est imposée contre Fiorentina, 1-0. En Afrique, les qualifications de la Coupe du Monde de 2022. Le Mali jouera le Rwanda et l'Ouganda la semaine prochaine. Explication de Marie-Amélie Motte pour RFI.
de surprise dans la liste des 26 joueurs de Mohamed Magasouba. Les cadres sont là, avec le Rennais Amari Traoré, l'Amiénois Mamadou Fofana ou encore Amadou Aïdara du RB Leipzig. Les Aigles sont en tête de leur groupe et sont bien partis pour rejoindre les barrages. Il ne faudra pas trembler au Rwanda, puis face à l'Ouganda. Un match délocalisé à Conakry en Guinée. Les Maliens vont beaucoup voyager et avoir peu de repos. Cela ne plaît pas du tout au sélectionneur Mohamed Magasouba.
Imaginez que nous allons faire un très long voyage pour aller au Rwanda le 11, jouer là-bas, en altitude. On n'aura même pas 3 jours de récupération parce qu'on joue le 11, on n'a que le 12 et le 13 pour récupérer, pour jouer le 14. On va faire encore un très long voyage pour quitter le Rwanda et venir, par exemple, à Conakry. Si c'est Conakry, c'est encore pire. Parce que sur un terrain comme ça, un terrain lourd, le gazon de Conakry, tout le monde le sait, c'est pas un bon terrain. Et donc, c'est obliger le joueur à supporter une double charge. Une double contrainte.
Des propos recueillis par Mahamadou Kalouga.
On passe au rugby, les tests internationaux. D'abord, les dames et les Françaises se sont imposées contre les Sud-Africaines 46-3. Chez les messieurs, victoire de la France contre l'Argentine. Cédric de Oliveira, sur place pour RFI.
Succès 29-20 du 15 de France qui commence bien sa tournée d'automne, même si ça a été compliqué, en tout cas plus que prévu. Les Bleus qui ont mis du temps à se mettre en route, les 40 premières minutes ont été donc délicates face à la bonne défense des Argentins. C'est l'arrière Melvin Jaminet qui a marqué tous les points des Bleus en première période, qui menait donc 9-7 à la mi-temps, puisque ces Bleus ont aussi encaissé un essai sur une erreur de Mathieu Jalibert contré sur un renvoi. C'est ensuite que le 15 de France a pris le dessus après le repos, donc supérieur physiquement. Il a marqué, ce 15 de France, 2 essais, un de Thibaut Flamand, le néophyte, et un autre du finisseur Peato Movaca. Et malgré un essai argentin inscrit par Matteo Carreras en fin de match, eh bien cette équipe de France, elle a tenu, elle a fait preuve d'une belle solidarité. Il faudra quand même montrer autre chose lors de la suite de cette tournée d'automne contre la Géorgie la semaine prochaine et surtout dans 2 semaines face aux All Blacks. Choc très attendu, mais sur ce qu'on a vu de ce 15 de France ce soir, il y a encore une belle marge de progression pour espérer gêner ces All Blacks.
Et le Pays de Galles qui s'est incliné donc face à l'Afrique du Sud 23-18. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Notre personnalité de la semaine à présent, personnage en lien avec l'actualité. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Coup de projecteur aujourd'hui sur la Française Sophie Petronin.
Sophie Petronin, oui, cette humanitaire française âgée de 76 ans, vous en avez sans doute entendu parler il y a un an, notamment quand elle avait été libérée au Mali après 4 ans de détention, otage des djihadistes. Nous reviendrons tout à l'heure, plus en longueur, sur cette captivité, cette libération. Mais si elle se retrouve de nouveau au centre de l'actualité aujourd'hui, Sophie Petronin, c'est qu'elle a décidé, malgré ses 4 ans de détention, de retourner au Mali. Et elle y est, de fait, depuis plusieurs mois. Les autorités françaises et maliennes le savaient, mais ne voulaient surtout pas que cela s'ébruite, ne voulaient pas en faire la publicité. Les autorités françaises ont tout fait pour la dissuader de repartir, hein, quand on sait tous les moyens qui ont dû être déployés pour obtenir sa libération, finalement en octobre 2020. Des moyens humains, des moyens financiers, sûrement, avec dans ce genre d'opération des rançons, hein, qui peuvent être versées. Mais Sophie Petronin, franco-suisse, est de nouveau libre et elle estime que sa vie est là-bas, au Mali. Elle y est donc de nouveau, elle s'y est installée en mars dernier, en catimini. Elle est passée par le Sénégal pour finalement rallier le Mali. Hein. Est-ce que finalement elle y est entrée de façon régulière avec l'aval des autorités maliennes et la connaissance des autorités françaises, hein. C'est l'une des incertitudes. En tout cas, sa présence jusque-là ne posait pas de réels problèmes jusqu'à ces derniers jours quand l'information s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. En fait, une note note du directeur général de la gendarmerie malienne qui a fuité, une note qui demande, je cite, à toutes les unités de rechercher très activement Madame Sophie Petronin, ex-otage, et en cas de découverte, précise la note, de l'appréhender. Alors, cette note de la gendarmerie malienne a de quoi surprendre, d'autant plus que Sophie Petronin ne cherche pas à se cachée plus que ça. Elle s'est réinstallée non pas à Gao, où elle dirigeait depuis 15 ans, avant son enlèvement, une ONG aidant les enfants souffrant de malnutrition. Elle se trouve à Bamako, la capitale du Mali, où elle vit aux côtés de sa fille adoptive qu'elle voulait absolument retrouver. Pourquoi donc ce pseudo-avis de recherche des autorités maliennes? Une chose est sûre, cette révélation publique de la présence de Sophie Petronin au Mali suscite depuis plusieurs jours beaucoup, beaucoup de polémiques au Mali, mais surtout, nous allons le voir, en France.
En France, plusieurs personnalités politiques ont vivement réagi, faisant comprendre que sa décision de retourner au Mali était, en quelque sorte, je cite, « irresponsable ».
Oui, des réactions parfois cinglantes, comme celle de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National d'extrême droite. Marine Le Pen, candidate à la prochaine élection présidentielle en France. Elle estime, je cite, que le retour au Mali de Sophie Petronin, quelques mois seulement après sa libération, n'est pas seulement, dit Marine Le Pen, irresponsable et ingrat, mais aussi indécent et indigne. Marine Le Pen qui rappelle que pour obtenir la libération de Sophie Petronin, il y a un an, en même temps que deux otages italiens, et que le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, qui était aussi aux mains des djihadistes, que pour obtenir ces libérations, les autorités maliennes et indirectement françaises avaient dû accepter, dans la balance, de libérer 200 djihadistes, ces ennemis de la France, explique Marine Le Pen en parlant de ces 200 djihadistes libérés, ont pu reprendre les armes contre nos soldats qui exposent leur vie pour notre sécurité, la France ayant des militaires présents au Mali. Des réactions outrées, donc, sans même aller jusqu'à l'extrême droite. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français, il dit déplorer le retour de Sophie Petronin au Mali. Il parle, je cite, « d'une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité, mais aussi, ajoute Gabriel Attal, vis-à-vis de la sécurité de nos militaires. » Même son de cloche dans les propos de Christian Chambon, qui est sénateur du parti Les Républicains et qui est président de la commission des affaires étrangères du Sénat en France. « C'est son droit, dit-il, je respecte la personne, mais l'acte politique qui consiste à repartir chez ses ravisseurs, c'est incompréhensible. » Et il ajoute, Christian Chambon, il ajoute même, puisqu'elle aime le Mali, qu'elle y reste et que la France tire un trait sur son cas. Réaction encore de Nicolas Desmoulins, qui lui est député de La République En Marche, le parti du président de la République Emmanuel Macron. Nicolas Desmoulins, qui est aussi président du groupe France-Mali de l'Assemblée nationale. « Je suis choqué ». Avance-t-il, choqué parce que je vois dans cette attitude beaucoup d'égoïsme au regard de tout ce qui a été fait pour sa libération. La France était prête à faire venir sa fille adoptive en France pour qu'elle puisse, Sophie Petronin, vivre à ses côtés, mais elle a donc préféré repartir au Mali. Les proches de Sophie Petronin, eh bien, ils ont réagi. Ces derniers jours, rappelons que Sophie Petronin est âgée de 76 ans et ses proches, notamment son fils qui a été très impliqué dans sa libération et qui est resté très proche d'elle et qui l'a, oui, il l'a reconnu, aidé tout en la mettant en garde à repartir au Mali, eh bien, il explique qu'elle ne se sentait pas bien en Suisse où elle se reposait depuis sa libération en octobre 2020. Il rappelle que toute sa vie, tout ce qu'elle a construit se trouve au Mali. Et de fait, cela fait 20 ans que Sophie Petronin vivait dans le pays, dans des conditions difficiles. À Gao, elle a monté cette ONG. C'était une figure locale, en quelque sorte, très discrète, très sobre, mais qui était là depuis 20 ans pour aider les enfants. Il précise son fils encore qu'elle n'est pas à Gao ou à Sikasso, dans une de ces localités du Nord Mali où sévissent les djihadistes, mais qu'elle est à Bamako, la capitale, qu'elle vit recluse dans un appartement, qu'elle n'ose même pas sortir. Alors pourquoi la gendarmerie malienne cherche-t-elle à la voir? Peut-être pour la mettre en garde contre un nouveau risque d'enlèvement, pour l'interroger peut-être sur les conditions dans lesquelles elle est parvenue à revenir sur le territoire malien, pour l'interroger peut-être encore sur ses années de captivité et des contacts qu'elle a pu avoir à ce moment-là avec les djihadistes. Le ministère de la Sécurité malienne a simplement précisé qu'il s'agissait en tout cas de lever, je cite, certaines ambiguïtés.
Est-ce que l'on peut rappeler dans quelles circonstances Sophie Petronin a été libérée il y a un an ?
Bien, il faut rappeler qu'à l'époque, Sophie Petronin était la dernière otage française détenue dans le monde, de moins de ce que l'on sait, de ceux qui sont connus. Elle avait failli être enlevée une première fois à Gao, au Mali, en 2012. Hein. Elle avait réussi à se réfugier au consulat d'Algérie, puis était parvenue à l'époque à quitter le pays avant d'y revenir. Mais le 24 décembre 2016, là, elle n'a pas pu échapper cette fois aux ravisseurs, aux djihadistes. Il faudra ensuite plus de 6 mois pour avoir de ses nouvelles, une première vidéo où elle apparaissait en compagnie d'autres otages. Son enlèvement à Sophie Petronin, qui a été revendiquée par le groupe salafiste de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe affilié à Al-Qaïda. En juin 2018, plus d'un an et demi après son kidnapping, on la voit dans une nouvelle vidéo où là, elle s'adresse à son fils, mais aussi au gouvernement français, à Emmanuel Macron, le président de la République. La France, rappelons-le, est présente militairement au Mali depuis 2014 pour justement chasser les djihadistes, les empêcher de prendre le contrôle de tout le nord du pays. En novembre 2018, les choses n'évoluant pas, le fils de Sophie Petronin avait demandé à Emmanuel Macron, je cite, de clarifier sa position, car il reprochait en creux aux autorités françaises eh bien, de ne rien faire pour obtenir sa libération. La France estimait, le fils de Sophie Petronin, refuser de négocier. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, lui avait répondu en ces termes. L'État continue d'agir sans relâche. Une telle démarche pour réussir exige le professionnalisme et la discrétion. Finalement, Sophie Petronin sera libérée le 8 octobre 2020. En même temps, nous l'avons dit tout à l'heure, que deux otages italiens et que Soumaïla Cissé, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle au Mali, chef de file de l'opposition malienne. La France, semble-t-il, a indirectement profité des négociations autour de la libération de Soumaïla Cissé pour obtenir celle de Sophie Petronin. Mais dans la négociation globale, les autorités maliennes, elles ont dû faire d'importantes concessions. La libération, notamment, de 200 djihadistes présumés, des combattants arrêtés en grande partie par l'armée française ces dernières années. Et c'est donc tout ce contexte qui a mis très mal à l'aise et qui fait écho aujourd'hui avec cette décision de Sophie Petronin de retourner au Mali. On se souvient également qu'après sa libération, Sophie Petronin avait eu ses propos, des propos qui avaient choqué dans une interview accordée à RFI juste avant de prendre le vol qui allait la ramener vers Paris, alors qu'elle se trouvait à Bamako, elle venait tout juste d'être libérée. Elle s'était étonnée qu'on appelle ces ravisseurs des djihadistes. Appelez-les comme vous voulez, avait-elle dit. Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement, avait ajouté Sophie Petronin. Et évoquant ses presque 4 ans de détention dans le désert, elle avait comparé cela à une retraite spirituelle. « J'étais dans l'acceptation de ce qui m'était arrivé », avait-elle expliqué. Sophie Petronin, et nous terminons par cela, humanitaire, catholique au départ, catholique pratiquante, qui avait aussi concédé une fois arrivée à Paris que durant sa captivité, elle s'était convertie à l'islam.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.